Après le chapitre 45, Perek Memhe. Perek Memhe,
oui,
c'est page 126.
C'est
la page, enfin, c'est la page 127 en vérité, la page juste après la page 126. Donc, on commence tout de suite le Perek Memhe, le chapitre 45. Le chapitre 45 est une suite directe de ce qu'on a démarré à partir de la série qu'on a démarré à partir du chapitre 41. À partir du chapitre 41, on a parlé de l'importance de la kavana dans les mitzvot. Qu'est-ce qu'on entend par kavana? C'est très important, surtout quand on est à Rosh Hashanah Kippour. Qu'est-ce qu'on entend par kavana? Par kavana, on entend qu'une mitzvah ne doit pas être faite de manière sèche. Il faut accomplir les mitzvot de manière à ce que les mitzvot soient accompagnées d'amour et de crainte. Mais on avait ramené ce que le Zohar dit, que l'amour et la crainte sont les ailes qui font voler la mitzvah vers la Kadosh Baruch Hu. Et que s'il n'y a pas ces ailes, la mitzvah, ça va bien arriver.
La courir un peu quand même.
Mais... non, on pense... la mitzvah ne peut pas s'envoler chez la Kadosh Baruch Hu. Donc jusqu'à présent, on a développé le concept de servir à Kadosh Baruch Hu par amour, et on a parlé un petit peu aussi du concept de servir à Kadosh Baruch Hu par la crainte. Mais on a surtout parlé du concept de... on vient de commencer.
Ah, là,
le...
Je suis pas sûr.
Vous
avez privé les
Zamproud.
Les Zamproud,
c'est
difficile pour vous. Vous savez, je dis jamais un truc. Et ça, vous m'avez mis à côté.
Non. Je crois que j'ai pressé un peu tout le monde ce soir.
Ah, vous avez mis le bras, vous avez mis la pression.
Vous avez peur?
Ouais,
à partir, il fallait dire.
Il est daté, hein.
Vous avez écrit à partir sur le SMS. À partir de 21.
Ouais, moi, quand je vois un horaire, c'est l'heure. Hein. Après, à partir, c'est pour faire joli. À partir, c'est-à-dire que... oui, c'est ça. Et puis, ça veut dire aussi que ça va commencer à 9h...
J'étais là. Non, lui, il était là avant. J'étais à la 9h02, moi. Lui, il était à la 9h.
Ouais,
donc... il était là. Il a mis de la porte d'à côté.
Voilà.
À partir, on devrait faire ça plus souvent, à partir.
Donc, donc qu'est-ce qu'on a dit? On va rajouter une table.
Ah.
Allez. Bon, alors on va se brouiller avec ça.
Ouais,
pour rester... Donc, on commence le chapitre 45, Perek Memhe. Donc, Perek Memhe, on est dans la même lancée qu'on a commencé à partir du Perek, chapitre 41.
Les hommes, hein, les mêmes, hein.
Chapitre 41, on a expliqué l'importance d'accomplir les mitzvot avec l'amour et la crainte. Ah, va veira. On a expliqué que sans l'amour et sans la crainte, le mitzvot était sèche et que le mitzvot ne pouvait pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Donc on a expliqué longuement. Dans les chapitres qu'on a eu jusqu'à... Ah, comment tu as la page? J'espère que même. Jusqu'à présent, on a expliqué le concept de Ahavat Hashem. On a parlé longuement du concept de Ahavat Hashem, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On a surtout développé, dans le concept de Ahavat Hashem et de Ahavat Hashem, on a expliqué le concept qu'il y avait deux catégories d'amour vers Akadosh Baruch Hu. On avait dit qu'il y avait l'amour, entre guillemets, égoïste. C'est l'amour qui dit que je sens que je suis loin du compte, donc je vais tout faire pour m'améliorer. Et on a expliqué que d'un autre côté, il y avait un amour qui était plus pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que j'ai de la peine pour ma neshama, je dis j'ai tellement fait d'avérot, c'est très grave. Et donc j'ai une soif, j'ai envie de retourner vers Akadosh Baruch Hu.
Ça met une grande pression.
D'accord? Bon. Maintenant, il va expliquer, aujourd'hui dans le Perek Memhe, dans le chapitre 45, on va parler de l'amida de Rachamim. La mida de Rachamim, c'est quoi? Bon, moi j'ai quelque chose quand même, je sais que vous êtes tous pressés, mais moi j'ai quelque chose que c'est Yonel qui a offert aujourd'hui.
C'est
la il a amené la dame France,
il a tout amené.
Aujourd'hui dans le Perek Memhe, dans le chapitre 45, on va parler de la mida de Rachamim. La mida de la Rachamim, c'est-à-dire de la mida de la miséricorde, qu'on va devoir éveiller en nous. C'est page 126-127. Ça c'est Mamash Vashgara Pratit. Ça tombe vraiment, c'est Vashgara Pratit si on va étudier ce chapitre-là, ou du moins le début de ce chapitre, pendant la Teret Imetchuba. Vous allez voir, ça va parler grave. Od yesh derech yashar litneish. On a encore un autre chemin, derech yashar, un chemin qui est droit, d'accord, litneish. Donc ça, il reprend, il y a un passou qui dit comme ça, derech yashar litneish. Donc jusqu'à présent, on a parlé de la droite, de la gauche. La droite, la gauche, on a l'amour, la crainte, la bonté, la rigueur. Et on sait que ça correspond à Abraham et à Yitzhak. Abraham, ça correspond à la droite, et Yitzhak, ça correspond à la gauche. Aujourd'hui, on va parler de Yaakov. On va expliquer pourquoi c'est un derech yachar. Pourquoi le chemin de Yaakov
est droit.
Est toujours un chemin qui est droit. Que quand on suit le chemin d'Abraham et de Yitzhak, ça veut dire un chemin qui est d'amour et de crainte, obligatoirement on aura un chemin qui ne sera pas toujours droit. C'est-à-dire on aura des hauts et des bas. Des fois on va servir Dieu plus par crainte, des fois on va servir Dieu plus par amour. On aura beaucoup de variations. Ce sera un peu en zigzag. Ce n'est pas négatif, mais ce sera en zigzag. On va expliquer aujourd'hui comment le rachamim, parce que c'est vraiment le niveau de Yom Kippour, comme on va expliquer aujourd'hui, ce niveau-là, c'est un derech yachar, c'est un chemin qui est tout droit, il n'y a pas de zigzag. C'est droit, ça va jusqu'au bout. La asok, betorah, mitzvot, lishman, donc c'est ce qui nous dérange depuis le chapitre 41. Depuis le chapitre 41, ce qui nous dérange, c'est comment faire Torah et mitzvot, lishma. Lishma, c'est pour la Kadosh Baruch Hu. Donc on a expliqué que lishma, ça voulait dire avec amour et avec la crainte. Là, on va nous parler d'une troisième chose qui a et l'amour et la crainte en même temps. C'est la midat de Rachamim. Comment il explique ici? Midato, allié de midato, chez Yaakov Avinu, à la Vachalom. On va développer la midat, la tribu de Yaakov Avinu, chez Imidat Rachamim, qui correspond à la midat de la miséricorde. Midat de la miséricorde, d'ailleurs, en passant dans Rachamim, on retrouve Avraham et Yitzhak. Comment dans le mot Rachamim, on retrouve Avraham et Yitzhak? Rachamim, c'est Reshret Maïm. Reshret, 208, c'est la même valeur numérique que Yitzhak. Maïm, c'est l'eau. L'eau, ça correspond à Avraham Avinu. D'accord? L'eau, ça correspond à Avraham Avinu parce que l'eau, ça correspond au Chesed. L'eau, ça correspond au Chesed, toujours dans l'eau, ça correspond à ce qui descend.
Bon, c'est la valeur numérique et l'autre, c'est l'image.
Bon,
c'est Tikkun
Ezor, pas moi.
Ah bon, d'accord. C'est Ezor, d'accord.
Moi, j'avance pas, moi.
Si on change de référentiel. Si c'est dehors,
quand c'est niglé, quand c'est
dévoilé.
Rachamim. Un remède. Un remède.
Tu me dis c'est dehors.
Chat, remez, racha, ça c'est remède.
D'accord.
Remez, c'est quoi le remède? Le remède c'est reshret, c'est 208, et maïm, c'est l'eau. Donc Rachamim, la mida de Yaakov, va correspondre à le niveau de Avraham et le niveau de Yitzhak. C'est un petit peu comme aussi il explique là-bas dans le soir, pareil, le Shamaïm. Il dit Shamaïm, c'est composé de Esh et Maïm. Bien que c'est pas exactement comme ça, Shamaïm, il n'y a pas Esh, non. Mais c'est comme ça, c'est le Remez. Le Remez, c'est les allusions, ça veut dire c'est une allusion seulement. D'accord? Alors, c'est quoi la Rachamim? Qu'est-ce que va nous amener la Midah de Rachamim de Yaakov Avinu? La Midah de Rachamim de Yaakov Avinu va nous amener quelque chose de très fort, surtout pendant Sirat Metshuva. Le problème qu'on a avec la Ahava Veira, avec l'amour et avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est que pour arriver, même si on nous a donné des techniques pour arriver à un amour d'Akadosh Baruch Hu, pour arriver à une crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais on a expliqué longuement dans le chapitre précédent qu'on est obligé de passer par une hitbonenu. Ça veut dire qu'il faut une réflexion au préalable, il faut réfléchir à quelque chose. Il faut réfléchir qu'est-ce que Dieu représente pour nous, il faut réfléchir à beaucoup de choses, et après, avec le temps, il y a un sentiment qui va se créer, un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte. C'est-à-dire que c'est un boulot qui prend du temps. C'est un boulot qui prend du temps, et il y a des gens chez qui ça marche, et des gens chez qui ça prend des années pour marcher, et des gens chez qui ça marche pas. Ça peut prendre beaucoup de temps. Bien sûr, on a dit que Kikarov et l'Echa d'Avar Meod, ça veut dire que c'est accessible. Ça, c'est sûr. Mais, c'est difficile. Ce qu'on a de spécial dans la Mida de Rachamim, dans la Mida de la Miséricorde, c'est que dans la Mida de la Miséricorde, c'est un attribut qu'on peut éveiller de manière beaucoup plus instantanée que l'amour et la crainte. Pour aimer quelqu'un et pour craindre quelqu'un, il faut une certaine réflexion. Il faut comprendre la chose, il faut comprendre pourquoi je dois avoir peur de la personne, pourquoi je dois l'aimer, ça prend du temps. Mais pour avoir la miséricorde, qu'on va expliquer tout de suite, ça peut venir en une fraction de seconde. Il suffit que je vois un oiseau, par exemple, qu'il a du mal à marcher, tout de suite mon sentiment de miséricorde s'éveille. Le sentiment de miséricorde est un sentiment qui s'éveille très rapidement. Donc ça, c'est ce qu'il y a de spécial à l'amida de Yaakov Avinu. L'amida de Yaakov Avinu, ça vient pour la Seret et Metshuva. Ça vient pour ceux qui disent, bon, on a fait les 30 jours de Slichot, ça, je sais pas si ça a marché, ça n'a pas marché, normalement ça devait nous amener des sensations, il y a Rosh Hashanah qui est passé, non, il n'y a rien qui s'est passé. Donc on se dit, enfin il n'y a rien qui s'est passé ou le résultat n'est pas comme ce qu'on attendait. Là, il faut éveiller la mida de Rachamim.
C'est pour ça que
Yom Kippour, on parle beaucoup de la mida de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. La miséricorde. Jusqu'à Yom Kippour, on parle beaucoup de Ahava, Ira. On dit beaucoup qu'on aime Akadosh Baruch Hu, c'est notre roi, on l'aime, on le craint. Et Rosh Hashanah, on parle beaucoup de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On dit que le mois d'Elul, c'est plutôt Ahava Tachem, l'amour de Dieu. Et à partir de Rosh Hashanah, c'est Yamim Noraim, on parle plus de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut se préparer, il faut être dans le coup. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas dans le coup? Là, on va parler de la Rachamim. Ce qu'on va gagner dans la Rachamim, c'est que la miséricorde, c'est beaucoup plus rapide. On arrive beaucoup plus rapidement à un sentiment de la miséricorde. Une petite histoire pour illustrer ça. Avec Rabbi Nachman de Breslev, puisqu'on vient de Rosh Hashanah, d'accord? Rosh Hashanah, ou même la Rosh Hashanah, c'est
chaud.
C'est chaud. Donc une fois il y avait un chassid qui était venu voir Rabbi Nachman de Breslev, et il avait beaucoup de problèmes dans Avodat Hashem. Il n'arrivait pas à sentir ni l'amour de Dieu, ni la crainte de Dieu, vraiment il avait un blocage. Alors l'histoire raconte que Rabbi Nachman a essayé de lui parler, mais ça n'a pas marché. Il voyait que ça ne rentrait pas, que le gars, il essayait, mais il n'arrivait pas. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, tu es quelqu'un tellement bas et tellement naze qu'on ne peut rien faire pour toi.
Il l'a blessé.
C'est ça, il l'a dit. Il a tapé fort. Qu'est-ce qu'elle raconte l'histoire? L'histoire, elle raconte que c'est ça ce qui a réveillé la personne, parce qu'il a tout essayé, Rabbi Nachman, hein, tout essayé. Il a vu que ça marchait pas, surtout quand on voit les livres de Rabbi Nachman, on voit que Rabbi Nachman, même sans toucher au niveau de sadique qu'il avait, c'est un grand psychologue, un très fin psychologue. J'ai vu quand j'étais en Israël, j'avais parlé avec des gens qui étaient ni racistes ni rien du tout, mais qui lisaient les livres de Rabbi Nachman parce qu'ils trouvaient beaucoup de psychologie dedans. Il y a beaucoup de psychologie dans les livres de Rabbi Nachman. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que cette personne-là, la seule manière de le secouer, en lui disant que c'est un naze. En d'autres termes, en éveillant le niveau de rachamim. Si tu vas venir, tu vas te mettre à lui expliquer, il faut que tu aimes Dieu, il faut que tu craignes Dieu, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va pas se passer. Et des gens chez qui ça passe pas. Quand tu prends, tu mets une claque, tu lui montres l'image, tu lui dis voilà ce qui se passe, voilà comment tu es. C'est là que la personne est secouée, et c'est là qu'elle va avancer. Et Rabbi Nachman de Breslev, il avait expliqué, hein, c'est ça le passage qui dit, Gam ki eler beget salmavet.
Il m'a détruit complètement.
D'accord? Lo irara. Bon, il faut savoir avec qui le faire, hein, attention. Gam ki eler beget salmavet, lo irara, ki ata imadi. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Le pasouk qui dit que même lorsque je suis au fin fond, je suis près de la mort, je n'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Qui a taille m'a dit parce que tu es avec moi. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que c'est quand la personne réalise qu'elle est au fond du puits et que c'est très grave, c'est là que qui a taille m'a dit, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va venir avec lui. C'est-à-dire, il a dit qu'il y a des gens qui ne vont pas sentir qu'Akadosh Baruch Hu est avec eux tant qu'ils vont pas sentir qu'ils sont loin du compte. C'est-à-dire, toute leur vie, ils peuvent vivre, ils sentent pas qu'ils sont loin d'Akadosh Baruch Hu et ça accrochera pas. À quel moment qui a taille m'a dit? À quel moment on va sentir que Kadosh Baruch Hu est avec moi et que ça prend, c'est Gam qui est l'air veget salma, c'est lorsque je réalise que je suis très très loin. Donc ça, c'est la Midat Rachamim. Alors maintenant, la Mourazaka va bien nous expliquer dans des mots comment on va avoir pitié de nous-mêmes.
Mais quand Rabbi Nachman, il a dit, tu vois rien, pourquoi tu veux dire Rachamim?
Il a voulu éveiller.
Oui. Non, d'accord. J'aurais plutôt vu
plutôt la sévérité.
Il a voulu, on va expliquer tout de suite. Il a voulu éveiller la rachamim que la personne va avoir pour elle-même. Voilà. Ouais. On va expliquer ici. C'est beaucoup plus fin, ça. Parce que, si déjà, comme il explique ici le Rav Stenza, c'est très logique.
Ah, il aurait pu prendre une corde quand même.
Bon, il savait qu'il avait
ça. Parce que quand on n'a plus rien, après il n'y a plus que la corde. Hein. Les mecs, ils n'ont plus confiance, ils disent, c'est à tel point comme ça.
On va parler de Yaakov Revel Nachalato aussi, là, tout de suite.
Ah, très belle. Elle est belle. Excuse-moi, tu peux préciser, c'est quoi la différence entre... Tu traduis parfois miséricorde.
Oui.
Rachamim par miséricorde.
Oui. On va parler tout de suite, justement. C'est une très bonne question, on va voir tout de suite. Parce que c'est... En fait, Rav Snet explique comme ça.
C'est un peu tôt, hein, qu'on répond pas tout de suite, hein.
Ah, dans la ligne qui suit, on va parler ça tout de suite. Ce qu'il y a de spécial, non, au contraire, quand je dis qu'on va répondre par la suite, c'est une bonne question, que demander à quelqu'un d'avancer. Parce que le Rav Snet explique de la manière suivante, il dit comme ça, il dit c'est très simple. Il dit, si déjà on voit qu'une personne, que sur une autre personne, sur une tierce personne, on arrive très facilement à un sentiment de pitié et de miséricorde. C'est-à-dire que, comme j'ai donné l'exemple de l'oiseau, quand on voit un oiseau qui a du mal à marcher, tout de suite j'ai pitié. Quand on montre des images qui choquent, tout de suite j'ai pitié. Mais quand il y a un rabbin qui vient ramasser de l'argent, qui va nous parler avec des mots un peu, qui va nous secouer un petit peu, tout de suite on a pitié, on a rachmanis. Il dit ici, à plus forte raison, si déjà sur une tierce personne on arrive à ce sentiment, à plus forte raison que sur soi-même on peut arriver à ce sentiment. Puisque Adam Karov et Salatmo, l'homme est proche de soi-même, et à plus forte raison que si on arrive à réaliser qu'on est loin du compte, on a tout de suite un sentiment de pitié, de miséricorde, on ne se sent pas bien. Le seul problème qu'on va dire ici, c'est que ce sentiment de pitié, il peut très très vite se transformer en dépression.
Ah,
bien sûr.
C'est très belle phrase.
Bien sûr, ça. Parce que tu expliques à quelqu'un qui est naze, il n'y a pas de problème, mais il faut lui expliquer après quoi faire. Parce qu'il y a des gens...
Il faut lui faire.
D'accord. Donc on va parler tout de suite. Shehi midat arachami. Le horaire de marchafto, rachamim rabim lifne Hashem. La réponse à ta question va être que c'est les deux. C'est et pitié et miséricorde. Tu me suis? Ça veut dire, en ayant pitié sur moi-même, c'est là que je vais veiller à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Bon, on va développer dans les mots. C'est un peu des deux. Le horaire de Marchat Totrila, Rachamim Rabim Lifne Hashem, Alimtut Telokot Amechayin Hashem. Comment on commence la Midat Arachamim, la tribu de, donc de la miséricorde et de la pitié? Il dit, il faut éveiller dans sa pensée. De la même manière qu'on a expliqué par rapport à Ahava Veira, par rapport à l'amour et à la crainte.
Moi, j'ai pas de Rachamim, moi. C'est pour monsieur Akouni. Faites Rachamim avec ceux qui ont pris toi.
J'ai pas goûté encore aujourd'hui. Hein.
Ah,
je m'en garde. Bon, voilà, après alors. Il dit comme ça. Le Horeb Bamarchafto, de la même manière qu'on avait expliqué que l'amour et la crainte devaient venir obligatoirement par une réflexion, ça ne vient pas comme ça. C'est pas je viens à la synagogue et tout d'un coup, je vais avoir un sentiment d'amour et de crainte. On a expliqué que c'est un travail. Il faut réfléchir, Bamarchafto. De la même manière, la rachamu, la miséricorde, c'est pas tout d'un coup comme ça que je me sens, que je suis loin du compte. Je vais devoir réfléchir. Ça va être plus facile, mais je vais devoir réfléchir. Alors. Rachamim Rabim, Lifne Hashem, Anitsut Elokut Amechaye Nafsho. C'est un peu spécial ce qu'il va expliquer le Morazakan ici. Quand on parle de miséricorde et de pitié, on sera attendu à ce que le Morazakan nous parle, qui nous dit que tu vas dire à Kadosh Barou, aie pitié sur moi, je suis loin du compte. Ça, c'est pas Rachamim, ça. Pourquoi c'est pas Rachamim? Parce que là, les gens touchent au niveau de Ahavat Hashem. Pourquoi au niveau de Ahavat Hashem? On a expliqué dans le Perek même Dalet, donc le chapitre juste avant, le chapitre 44, on a expliqué que quand un juif, il sent qu'il est très loin d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il a une soif de revenir vers Akadosh Baruch Hu, il sent qu'il est loin du compte, même si, on va dire qu'il n'a pas encore fait de Tshuva à 100%, il est en train de revenir, c'est déjà considéré Ahavat Hashem. Parce que Ahava, c'est une soif. Donc dès que la personne a une envie de revenir vers Akadosh Baruch Hu, il sent qu'il est loin du compte et qu'il faut qu'il revienne, c'est déjà Ahavat Hashem. Là, on ne parle pas d'Ahavat Hashem maintenant. On parle de Rachamim. Rachamim, ça veut dire avoir pitié. De quoi j'ai pitié? Il dit comme ça. Il va avoir pitié, et là le Morazakan va décrire avec des mots, le processus d'une Neshama, comment une Neshama elle descend en bas, et qu'est-ce qui se passe avec cette Neshama, comment on devrait avoir pitié de notre Neshama. Al Mitsut, c'est le Kout, Amechaye Nafsho, sur l'étincelle divine qui fait vivre mon âme. Alors, on va réfléchir ensemble dans les mots. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette étincelle? Asher Yara, du Mekoro, Chaye Achaim, Ensof Baruchou. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Neshama? Cette Neshama est venue de sa source. Sa source c'est où? C'est la vie de la vie, qui est à Kadosh Baruch Hu. Amimale kol almin, vesovev kol almin, de kula kame kol achashiv. C'est des temps qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le Tanya. On fait mention ici à trois niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Le niveau de Mimale kol almin, ça correspond au niveau d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il intègre le monde. C'est-à-dire que dans chaque chose qui est autour de nous, Dieu se trouve, une étincelle de Dieu se trouve. Bon. Ça c'est Mimale kol almin, omniprésente, voilà, on appelle souvent l'omniprésent. Ensuite on a sovev kol almin. Sovev kol almin, ça veut dire, ça c'est le niveau de Yudke Vavke. Premier c'était Elohim, le deuxième c'est Yudke Vavke. Ça correspond à Kadosh Baruch Hu tel qu'il est plus haut que le monde.
Omnipotent. Potentialité, c'est régulier.
Mais il rentre pas. Ça c'est le niveau qui rentre pas. On dit que si le chef Yudke Vavke il descend, ça fait tout de suite des miracles. Comme ça. Dès qu'il y a un miracle qui se passe dans le monde, c'est quoi? C'est le chef Yudke Vavke qui se dévoile dans le monde.
C'est une incursion du chef.
Voilà, c'est pour ça que dès que ça descend, la nature elle explose. Donc la nature elle explose, c'est extrêmement miracle. Et enfin, le troisième niveau, c'est quoi? C'est Kula Kame Kalachashif. Kula Kame Kalachashif, c'est quoi? Kula Kame Kalachashif, ça veut dire que c'est un niveau qui est tellement fort que ni les mondes d'en haut, ni les mondes d'en bas, tout ça, c'est considéré comme Walou devant un Kadosh Baruch Hu. Comment on explique ça? On dit que ça, c'est la Gemara, elle dit que ça, c'est le Osé Miflod et de l'autre Levado. Les plus grandes merveilles, les plus grands miracles, c'est quoi? C'est quand la Gemara dit, quand En Baal Anes Makir Beniso. La Gemara Bachot, elle dit, c'est quand celui qui a eu l'auteur du miracle, c'est-à-dire celui qui
le
destinataire du miracle, ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un miracle. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois en voiture, on roule, on voit quelqu'un comme ça, vous voyez un piéton qui est en train de passer, vous voyez un camion qui est passé juste après, une situation que, une fraction de seconde, ça aurait pu être la catastrophe. Maintenant, le piéton, il avance, et le camion, il avance, et personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un miracle ici. Personne ne s'est rendu. En Baal Anes Makir Beniso. Ça, c'est le plus grand miracle qu'il peut y avoir. Léosé Niflot, Gedolot, Levado. Oui, ça c'est les plus grands miracles,
le
c'est les miracles qui sont cachés dans la nature. On les voit pas les miracles. Avec les enfants, mais surtout, tu sais quand on voit les miracles très fort avec les enfants. Tu sais, les enfants quand ils tombent, etc. Voilà, juste hier soir mon fils il est tombé, d'accord, il est tombé sur quelque chose de tranchant, il s'est tranché juste ici en dessous de l'œil. Maintenant, j'ai même pas envie de penser qu'est-ce qui serait passé si c'était un centimètre plus haut. C'est des miracles. C'est des, avec les enfants, quand on voit ce qui c'est mamage des miracles. Non, mais ça, c'est pas Gedolot, ça, c'est pas les vados, ça, parce que ça, on voit. Des fois, il y a des miracles à Kadosh Baruch Hu, qu'on sait même pas qu'il y a un miracle. Personne ne sait qu'il y a eu un miracle. Ça, c'est les plus grands miracles. Ça, donc, ça correspond à trois niveaux d'Akadosh Baruch Hu. On a la nature. On a le miracle qui est plus haut que la nature. On a le miracle qui est tellement haut qu'il va s'intégrer dans la nature. C'est-à-dire qu'il va se camoufler dans la nature. C'est un miracle qui est tellement fort qu'il va se camoufler dans la nature. Alors, cette Neshama, d'où elle vient? Elle vient du plus haut des niveaux. Elle vient plus haut que tout ça encore. Donc on va réfléchir à cette Neshama. Elle est descendue petit à petit. Elle est descendue, d'accord? Petit à petit, Memale Kolalmin, Sovev Kolalmin, Kula Kamekola Khashi. Cette Neshama est descendue, descendue, descendue. Jusqu'à ce qu'elle arrive où? Venit la bêche, be Mishra de Chavia. Elle s'est habillée. Alors Mishra de Chavia, c'est littéralement, ça veut dire la peau du serpent. C'est quoi la peau du serpent? Le serpent, ça correspond à Shalosh Kulpot Atmeon.
C'est
quoi?
C'est
Zohar, enfin, c'est pas moi.
C'est la vie, quoi.
Tikkun Zohar, pour être précis. Mishra de Chavia, c'est la peau du serpent. Le serpent, ça correspond à quoi? Le serpent dans le Zohar, ça correspond aux forces du mal. Dès qu'on va parler des forces du mal dans le Zohar, on parle tout de suite, Shalosh Klipotatmiot, c'est le serpent.
On n'est pas sûr.
D'accord? Et c'est vrai, quand on parle d'un, quand on voit un serpent aujourd'hui, c'est bon. Et Mishra de Chavia, c'est quoi la peau du serpent? La peau du serpent, c'est ce qui peut être récupérable. Vous vous rappelez de Klipat Noga? On avait dit qu'il y avait les trois clipotes. Les trois clipotes, c'est tout ce qui est interdit. Par exemple, un morceau de cochon. Irrécupérable. Sans que ma chère n'est pas là, c'est irrécupérable. Mais on a dit qu'il y a clipat noga. Clipat noga, c'est tout ce qui est neutre. Par exemple, un verre de jus d'orange. D'accord? Un verre de jus d'orange, c'est neutre. C'est ni une mitzvah, ni une avéra, c'est neutre. Ça, c'est, le Zohar, il appelle ça, mishra de chivia, ça veut dire la peau du serpent. Ça veut dire que, même si c'est un serpent, mais si tu enlèves la peau, tu peux faire quelque chose de bien avec cette peau-là. Donc, la peau du serpent. Bon, c'est une image, hein. C'est une image.
Crocodile.
Alors. Venit la bêche, bemishra de chivia, arachok, meof namela betachit arachek. Donc, on parle toujours de cette neshama. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette neshama? Elle était à un niveau très très haut. Donc, petit à petit, elle est descendue. Elle est descendue. Donc, plus elle avance et plus elle est accessible vers le monde. Donc, elle va aller, kula kame kalachashi, sovev kolalni, mele kolalni, jusqu'à qu'à la fin, elle arrive dans ce monde. Où elle va arriver dans ce monde? Elle va arriver à nit la bêche, bemishra de chivia, donc dans notre corps. Notre corps, arachok me'or penameler betachrit aechek. Il va expliquer ici que notre corps est ce qu'il y a de plus grossier, est ce qu'il y a de plus bas qui existe dans toute l'humanité. Pourquoi? Il y a des animaux peut-être? Des animaux sauvages, c'est pas pire que nous? Non. Pourquoi? Ki ha'olam hazeh utachlit haklipot hagasot chuleh. Parce que notre monde, il n'y a pas pire que notre monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre monde qui a plus de, il n'y a pas un autre monde qui a plus de passages que notre monde. Aujourd'hui, on est à la découverte de nouveaux mondes et d'autres personnes qui habitent peut-être ailleurs. Même si ça existe, c'est possible que ça existe. D'accord? Selon la Torah, il n'y a rien contre. Mais il n'y a pas plus bas que notre monde, ça c'est sûr. Ça c'est barreau. Et dans le monde même, qui est le plus bas? C'est l'homme. Après, il dit etc. ici. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant etc.? Etc. Il veut faire un rappel de ce qu'il a dit dans chapitre 36. Chapitre 36, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué d'Irab et Tartoni. On avait expliqué que Akadosh Baruch Hu, sa demeure, c'est dans le monde ici-bas. On avait expliqué comment le monde est bas de chez bas. Pourquoi? On avait dit comme ça. On avait dit que l'homme, en vérité, est pire qu'un animal, et pire que l'animal le plus sauvage qui peut exister. Parce que l'animal sauvage, il fait son job. L'animal sauvage, Dieu, il a créé, il a dit, voilà, toi, tu es sauvage maintenant. Là, si maintenant, un jour, un lion, il se réveille, il dit, j'ai pas envie d'être sauvage aujourd'hui. Tu peux pas. Alors que l'homme, avec sa chorma, avec son intelligence, il peut aller pire, il peut faire pire que l'animal.
Mais l'animal, il a pas de conscience.
Sûr? Ce que je veux dire, c'est pour comment l'homme peut être plus mauvais que l'animal. Et comme on voit, on voit que quand un homme décide d'être mauvais,
oui. Tu me forces.
Même s'il n'aime pas ça, mais au fur et à mesure du
Nous, on devient l'oubavis, j'ai déjà étudié.
Tu suis marié avec une Tunisienne.
Ah ouais. Bon, déjà, il a commencé grave. Une
Tunisienne. La porte de mon appartement, c'est 55.
C'est pas vrai.
J'ai que visité l'appartement, j'ai dit ça.
Là, c'est assez mal, hein.
55 boulevard de la Passionnière.
Non, le numéro de l'appart.
55, elle est belle. C'est là qui paye pour les 55.
Elle est très bonne, Léon.
Ouais, très bonne.
Je crois que ça donne sur la fin. Toi aussi, ils t'ont mis à la dame prote? Hein? Toi aussi, t'es passé à la dame prote? Bah, bonne note! Qui a olamazé ou tachlit à clipote à cassot roulé. Donc là déjà, donc ça c'est un premier point que je dis là de Morazaken. Comment on a pitié de notre Neshama? D'accord, quand on prend un instant, alors ça peut prendre quelques instants, mais quand on réfléchit, d'où vient notre Neshama? Comment notre Neshama vient d'un niveau très très haut, elle vient de très très haut, et elle est descendue, elle n'est pas descendue dans le corps d'un animal, elle est descendue dans le corps d'un homme, et qui mieux que nous, on sait très bien que quand on veut faire du mal, on peut aller très très loin. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait d'Averot. Il n'a même pas fait d'Averot encore. Attends, on va parler maintenant, celui qui a fait d'Averot. Là, on parle du fait même qu'on est dans le monde ici-bas, c'est un monde qui est tellement grossier que c'est une souffrance pour la Neshama. Comme on verra après, ça s'appelle une galoute, un exil. C'est quoi l'exil? Un exil, c'est comme le concept de Gilgoul. Le concept d'un Gilgoul, c'est quoi le plus grand, les Gilgoul, les pires qui existent, Yaakov? C'est quand on dit, par exemple, on dit que quelqu'un, il va aller en Gilgoul dans le corps d'un chien. Pourquoi c'est un Gilgoul difficile? Parce que, il peut pas,
ça quitte une vie de chien.
Bon, mais il sent plus rien, de toute façon.
Ah, c'est le cas, dans une vie de chien, c'est une vie de chien.
Pourquoi c'est un Gilgoul qui est difficile? Parce que, dans notre Neshama, on a beaucoup de force. On a, par exemple, la force de pouvoir voir, de pouvoir entendre. Ça vient de notre Neshama, tout ça. De pouvoir comprendre, etc. Et quand quelqu'un, sa Neshama, Dieu préserve, rentre dans le corps d'un chien, ce qui se passe, c'est qu'il est bridé. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'y a aucune souffrance plus grande que ça. Quelqu'un qui sent qu'il y a des forces et qui n'arrive pas à les développer. C'est la même chose que la Neshama sent quand elle est en bas. Quand elle est en bas, notre Neshama, et qu'elle se prend la tête avec notre corps, elle essaye de le convaincre de venir au milieu le matin, de venir au cours, etc. Elle essaye de le convaincre, des fois ça marche, des fois ça marche pas. La souffrance qu'elle sent, la Neshama, elle dit, mais même le peu de Gdusha que j'ai pu amener, c'est rien par rapport à ce que j'aurais pu faire en haut. C'est une souffrance énorme. Là, on n'a même pas parlé encore de quelqu'un qui a fait d'Averot. Le fait même qu'on est en bas, c'est déjà une souffrance pour la Neshama, elle souffre. D'accord? Donc déjà, on voit comment la Neshama souffre. Ou Bifrat, Keshe Iskor, Alkol, Ma'atav, Ediburav, Marchevotav, Miyom, Eyoto, Acharlotolim, Hema. Surtout, on va commencer à se souvenir de tous les Averot qu'on a fait depuis qu'on est né. Alors, même si on parle d'un Bédoni qui ne se rappelle pas quand il a fait ses dernières Avera, on lui dit, cherche, remonte un peu dans les années, tu trouveras bien une Avera. Bon, je ne sais pas, chez moi, je n'ai pas besoin d'aller remonter jusqu'à le jour de ma création. Miyam Yoto Adayomate, ou Melech Asur Bareatim. Où c'est écrit ça, Melech Asur Bareatim? Shirachirim. Melech Asur Bareatim. Melech Asur Bareatim, ça veut dire que, littéralement, ça veut dire, hein, alors comme Rachid explique là-bas, ça veut dire que le roi, il est emprisonné. Baréatim, réatim, ça vient du mot ritsa, comme explique Rachid là-bas, ça vient du mot de la course. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu est emprisonné chez ceux qui courent pour aller au minyan. C'est ça, il dit là-bas. Dieu, il est emprisonné par eux. En d'autres termes, ça veut dire que quand quelqu'un qui va au minyan, il demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il peut rien dire. Il est obligé d'accepter. Comme ça, il explique Rachid là-bas. Alors, regardez comment on va expliquer ici, Melech Asur Baréatim. Melech Asur Baréatim, Bireite Mocha. Comment elle explique le Zohar? Birite mocha. Reite, c'est en araméen, c'est une pensée. Et mocha, donc c'est l'intellect. Là-bas, il dit comme ça. C'est très fort, ce qu'il dit le Zohar. Il dit que, Melech Asur, on croyait qu'il n'y avait plus. On est au salé aujourd'hui, hein. On a pris le repas. Melech Asur Baréatim, ça veut dire que le roi, dit le Zohar, le roi est emprisonné Baréatim dans les pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir, dit le Zohar, que chaque fois qu'on a une pensée, on n'a jamais une pensée qui est détachée d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas quelqu'un qui va dire, bon, maintenant je fais une mitzvah, je suis attaché à Dieu, après je rentre chez moi, j'ai mes petites pensées, c'est pas grave, maintenant je suis détaché d'Akadosh Baruch Hu, je suis en mode détaché maintenant. Non. Dit le Zohar, Melech Asur Baréatim, Dieu est emprisonné par nos pensées. Ça veut dire quoi emprisonné par nos pensées? Ça veut dire que s'il nous a laissé une Neshama qui est une étincelle de Dieu, quand on utilise cette neshama, cette force-là, et qu'on a des mauvaises pensées, juste pour prendre l'exemple des pensées, même s'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas d'acte, Dieu est emprisonné. C'est-à-dire que Dieu descend avec ça. Ou que Machal,
pourquoi Dieu descend avec ça?
On va expliquer. Bérit Temoura, qui Yaakov révèle Nachalato. Voilà, tout de suite. Qui Yaakov révèle Nachalato, c'est le verset qu'on a dit. Yaakov révèle Nachalato, verset dans le Varim, il dit que Yaakov est comparé à une corde. Quel rapport entre la corde et Yaakov? Il dit, ou que Machal à Moshel Bechevel. Comme un exemple, que quand je tire la corde, je tire pas seulement la corde, je tire ce qu'il y a aussi derrière la corde. D'accord? S'il y a une corde qui est attrapée à quelque chose, et moi je tire la corde. Même si je veux tirer que la corde, je dis moi je touche que la corde, je vois pas ce qu'il y a derrière. Mais que tu veuilles ou que tu veuilles pas, quand tu tires tout. De la même manière pour la Neshama. On a une étincelle d'Akadosh Baruch Hu en nous. Et quand on prend cette énergie, c'est elle qui donne cette énergie. même les avérotes qu'on fait, on est obligé de prendre cette énergie-là, parce que si on n'avait pas cette énergie-là, même une avérote, on n'aurait pas pu faire, on n'aurait même pas existé. Donc on prend l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu nous a créée, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, l'énergie avec laquelle on aurait dû faire des mitzvot, cette énergie qui vient de notre neshama, et avec cette énergie-là, on va faire des avérotes. Donc on va prendre la corde, je dis, moi je prends que la corde, je vois pas ce qu'il y a derrière. Tu dis, ça marche pas comme ça. Tu prends la corde, tu as tiré, c'est tout le bâtiment qui tombe. Tu tires tout Akadosh Baruch Hu avec. Vehu, sod galut ashrina. Et ça c'est le secret, donc ça c'est l'étendue du Zohar, c'est le secret de l'exil de l'ashrina. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ashrina est en exil? Tu me dis que quand, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, l'ashrina est en exil. C'est-à-dire quoi, elle est en exil? Elle est partie, elle n'est pas en exil. C'est nous qui sommes en exil, pas elle qui est en exil. C'est-à-dire quoi que l'ashrina est en exil? La réponse est non. La réponse c'est que quand nous on va en exil, comme il dit, shrinta begaluta, l'ashrina est en exil, ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, imo anochi betzara, Kadosh Baruch Hu est avec nous. C'est pas que Kadosh Baruch Hu nous a laissé un plan et dit bon, moi j'enlève ma shrina, le jour où vous serez mieux, on remet la shrina. Non. C'est la shrina qui est en exil. La shrina est en exil, et ça c'est le secret de la galoute de la shrina, c'est-à-dire que plus on descend dans l'exil, et plus on fait descendre la shrina. Tout ça, quand on réfléchit, on imagine, imaginez-vous comment la neshama est descendue très très bas. Non seulement déjà, depuis la naissance déjà, le fait même qu'elle est née, c'est déjà un monde pourri. En plus, on rajoute nos averot dessus, c'est fini. Pour la neshama, c'est une souffrance. Elle veut pas descendre. La neshama, à la base, elle veut pas descendre.
Ouais, ce qui est plus le problème, c'est que le monde pourri, c'est Dieu qui l'a fait.
C'est sûr.
Ah, et donc, cette souffrance que subit la neshama avant même que l'on opère la moindre avéra.
Oui.
C'est une souffrance que Dieu a décidée qui est indépendante de l'homme.
Sûr, ça. C'est sûr.
Oui, mais c'est.
Mais ça, c'est pas pour
ça, ça pose le jeu dès le départ.
La neshama, elle est obligée d'accepter le plan d'Akadosh Baruch.
D'accord, mais sans rien faire déjà, elle souffre.
Oui.
Sans rien faire déjà.
Elle souffre parce que, on dit que la neshama, elle ne peut pas descendre.
D'accord, elle ne veut pas descendre parce qu'elle sait qu'en descendant...
Avec les Neshamot en haut se battent pour ne pas descendre. Ouais. Se battent pour faire la queue pour qu'un il passe avant. Se battent pour... Elle ne veut pas descendre, les Neshamot.
Et après toi,
Après vous. Et après, quand Akadosh Baruch Hu, il décide de faire descendre les Neshamot, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? On dit, « Majbi, moto, t'es tzadik, va te hiracha. » On avait expliqué dans l'Empire avec Kedza, dans le chapitre 15, on avait expliqué que « Majbi, ça vient du mot « sova », ça vient du mot « rassasié ». Que Akadosh Baruch Hu, il va consoler la Neshama avant de descendre. Il dit, t'inquiète pas, je sais que tu vas descendre dans un monde pourri, excusez-moi du terme, mais on te donne des forces, on va te rassasier de forces, et si tu veux, tu vas réussir. C'est-à-dire que la Neshama, avant de descendre, elle sait qu'elle va souffrir. Elle sait qu'elle va souffrir. Et elle va souffrir. C'est pas qu'elle va arriver en bas et happy end, il n'y a pas happy end, elle va souffrir. Et pourtant, alors c'est le plan d'Akadosh, c'est sûr que c'est le plan d'Akadosh Baruch Hu, vous avez raison que c'est le plan d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, on essaye de.
Comme de toutes les manières, d'après ce qu'on a expliqué, la puissance ne pouvant jamais s'exprimer, mm-hmm. ou presque jamais, on va dire.
Ouais.
C'est qu'il y a quelques miroutimes qui arrivent. Donc, une situation de souffrance ou de frustration,
elle est
inévitable.
Inévitable.
On ne peut que la diminuer.
Mais quand on fait une avéra, quand on fait une avéra, c'est pire.
Bon, d'accord.
Parce mais que déjà, c'est le patron qui a pris l'étincelle et qui a dit, bon, tu restes en bas dans ce monde. Bon, j'accepte. Mais là, quand c'est l'homme qui décide avec son corps de faire descendre cette neshama très très bas, c'est une souffrance énorme. Et donc, là, en vérité, ça veut dire qu'on devrait avoir Rachamim, pas que sur... On doit avoir Rachamim, pas seulement sur sa Neshama, mais on a Rachamim sur tout le système. Quand on fait une Avera, c'est pas que moi qui empathie. C'est tout le système qui empathie. Je peux pas dire que maintenant, quand je fais une Avera, je me détache. Non, ça marche pas comme ça. Quand on fait une Avera, c'est tout le fil qu'on coule. C'est tout le fil qu'on tire avec nous. Yaakov Revan Nachalato.
Donc, on a un système, on peut dire. J'essaye de trouver un peu de réconfort en cette veille de grand pardon. On peut dire que si déjà Akadosh Baruch Hu avec les kochot qu'il a et ce qu'il représente, eh ben, il a accepté le fait que l'âme elle va souffrir par sa frustration d'expression.
C'est un but.
Oui, mais.
Grave d'artonie, mais ouais.
D'accord, mais elle va souffrir. Moi qui suis qu'un être humain avec des kochot extrêmement limités et que je n'ai pas la visibilité ou la lucidité d'Akadosh Baruch Hu, quand je fais des bêtises, je suis rien du tout. C'est rien par rapport à Akadosh Baruch Hu. Je parle par.
C'est comme
toute proportion gardée. J'ai envie de dire.
On va parler à la troisième personne.
C'est ce que je veux dire.
Attendez, on va parler à la troisième personne.
Pas de quinouille.
C'est comme si que je rentre dans un hôpital, je vois quelqu'un en train de souffrir.
Non, la troisième personne.
Oui, à la troisième personne. Je rentre dans un hôpital, et je vois un bonhomme en train de souffrir. Je me dis, puisque Dieu, de toutes les façons, il a décidé qu'il doit souffrir, qui je suis moi, c'est rien du tout, je vais venir, je vais lui décoller une droite. Souffrir pour souffrir, il va souffrir un peu plus, c'est pas grave.
T'as un kiff
dans les Non, c'est une avéra, c'est un kiff,
un kiff va frapper les gens.
Je décolle une droite.
Ils seront par terre.
Toutes les façons, ils souffrent déjà. Allez, tu vas souffrir un peu plus, un peu moins.
Il est pas bon à 100% de machin, hein, je sais. Parce que j'ai mis une troisième personne là.
Oui. Et puis c'est pas ça, et puis
Non. J'ai pas compris moi l'allusion du tout. Moi, j'ai pas compris du tout.
Le même concept. Le concept est le même. Je l'ai un peu. J'ai fait une caricature, mais.
Ah c'est bien.
Quand on réalise comment notre Neshama est loin du compte, on ne dit pas que c'est notre faute. Mais on te dit déjà, Kadosh Baruch Hu, il fait souffrir la Neshama. Pourquoi il fait souffrir la Neshama? Parce qu'il a un but. Il dit, c'est vrai que tu vas te galérer, mais grâce à ce but-là, tu vas faire une demeure ici. Bah, pas de problème, il a un but. Moi, je viens, j'en rajoute. Non seulement que j'accomplis pas le but de Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, imaginez-vous, la Neshama, avant de descendre, on a dit, bon, tu vas descendre, mais bon, tu vas bosser dans le bon chemin et tout, t'inquiète pas, ça va pas être facile, mais tu vas réussir. Qu'est-ce que je fais, moi? Non seulement que je laisse pas faire son rôle, mais en plus, je fais faire le contraire. C'est une souffrance énorme, je la tue la Neshama quand je fais ça. Donc, on pourrait avoir rachami, miséricorde, on pourrait avoir pitié. Enfin, pitié sur notre Neshama. Pitié sur notre Neshama, jusqu'à où on fait descendre notre Neshama. Ça, c'est Galout Ashrina. Ça, c'est le secret de l'exil d'Ashrina. D'accord? Parce que, enfin, le terme secret, c'est un terme qui est écrit dans le Zohar. Hein, il dit Sod Galout Ashrina. Apparemment, il y a un Sod. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de Sod, mais comme ça, il dit le c'est pas un terme de Morazakin, c'est un terme du Zohar. Valzenema. Pour répondre à ta question tout à l'heure, comment tu t'appelles? Nickel. Valzenemar, Veyashov el Hashem virachameu. Là, une fois que la personne est passée par ce stade-là, quel stade? Le stade de la pitié, j'ai pitié sur ma Neshama. Je dis, maintenant, je suis loin du compte, c'est très grave ce que je suis en train de faire. Ok, disons que moi je m'en fiche, pour mon corps je m'en fiche, même s'il s'en fiche du Guéhinnom. Mais si on réfléchit cette Neshama, il faut des moments propices quand même pour réfléchir à ça, parce que sinon on s'en fiche, c'est bourre. Je réfléchis à ma Neshama. Je dis qu'il faut un travail, il a bien dit l'horaire de Marchafto. Il faut réfléchir. Mais c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Parce que là, on n'a pas besoin d'un travail de longue haleine comme pour l'amour et pour la crainte. L'amour et la crainte, on explique que ça peut prendre des heures, des jours, des mois, des années. Ce sentiment-là est un sentiment qui est accessible beaucoup plus facilement. Réaliser qu'on est loin. Réaliser que notre Neshama, elle est descendue et qu'on fait du mal à notre Neshama. Notre Neshama est très très loin du compte. Ça, c'est un sentiment qu'on peut... Vous voyez, c'est intéressant comme l'Admor HaZaken il parle de la Neshama à la troisième personne. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Il parle pas... Regardez bien la chaîne de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken ne dit pas que j'ai pitié sur ma Neshama. Il dit, j'ai pitié sur l'étincelle de Dieu qui se trouve en moi. C'est-à-dire que on dirait qu'on a envie d'exporter le...
Ce sens. On n'a pas le sentiment de posséder ça.
Ça veut dire, il veut te montrer que même si t'en as rien à faire de toi, d'accord, externalisé, comment on dit, il veut mettre à la troisième, même si j'en ai rien à faire de moi, okay. Mais c'est un échelon. Alors on va voir si ça marche ou ça marche pas avant. Valzenemar, Viachov et Hachem Virachameu. Et quand une personne fait ce calcul-là, et ça veut dire qu'il, même si, on va dire qu'il n'arrive pas vraiment à faire ses chouvas à 100%, il essaye. Mais au moins, il a pitié sur son échelon. Il dit, ah, je suis loin du compte, il faut que je me reprenne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans le verset de la Teshuva, on nous dit, Veyashov el Hashem dirachameu, ve'el elokenu, qu'est-ce qu'il dit le passage après? Ve'el elokenu ki yarve l'histoire. Il dit que quand une personne a pitié sur soi, à ce moment-là, Veyashov el Hashem dirachameu, il va faire Teshuva, virachameu, et Akadosh Baruch Hu aura lui aussi rachamim, miséricorde envers lui. C'est quoi? Vous savez qu'il y a les trois niveaux. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça correspond à Chesed, Din, Rachamim. Chesed, Din, Rachamim, d'ailleurs, c'est racheté votre de Cheder. Chesedin Rachamim, ça une fois l'Admor HaZaken l'a expliqué. Il a expliqué que la manière comment Akadosh Baruch Hu fait les choses dans le monde, c'est que toujours après un Chesed, il y a toujours un Din qui vient. C'est comme ça. Dès qu'il y a un grand Chesed qui vient, après il y a un grand Din qui va suivre. Mais après ce Din-là, il y aura un Rachamim. C'est quoi la différence entre Chesed et Rachamim? C'est que dans le Chesed, quand on dit qu'on fait une bonté, quand on dit qu'on fait de la bonté avec quelqu'un, ça veut dire que je sais que la personne n'est pas méritante. Alors je sais que la personne n'est pas méritante, mais je fais comme si que j'ai rien vu. Comme Abraham Avinu. D'ailleurs, on lui a reproché à Abraham Avinu. Il dit qu'Abraham Avinu faisait comme si tu ne voyais pas les défauts des gens. Enfin, donc ça, c'est quoi Chesed? Chesed, c'est je donne à la personne, je fais comme si je n'ai pas vu ses défauts. Din, c'est le contraire. Din, c'est je me concentre plus sur ses défauts que sur ses qualités. Et c'est quoi Rachamim? Rachamim, c'est je dis, c'est Yaakov, c'est je sais qu'il a des défauts, et c'est des défauts, et je lui donne quand même. C'est ce qu'on demande à Yom Kippour. C'est exactement ce qu'on demande à Yom Kippour. Jusqu'à Yom Kippour, on essaie de travailler sur notre amour, sur notre crainte, chesed, din, etc. Là, quand ça arrive Yom Kippour, on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, tu sais nos défauts, on va rien te cacher, mais bien que tu sais nos défauts, pense à nous quand même, rachamim. Le niveau de rachamim, c'est je sais les défauts que la personne a, et quand même je lui donne. Ça, c'est la miséricorde. Clémence, on appelle ça? C'est chez nous, dans...
On peut dire français, quoi. Après, ça peut être utilisé où ça, aussi.
Non, aucune connotation.
Din. Elul, c'est rare. Elul, c'est chesed. C'est la... Comme ça, on dit que Elul, il y a un chesed très très fort d'Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué que Elul, le roi, il est dans les champs. On dit que pendant le mois de Elul, d'accord, on dit qu'il y a le Yud Gimel Midot à Rachamim, 13 attributs de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui éclaire. Et le plus fort, c'est le chesed. Il y a un chesed très très fort d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, dans le mois de Elul. Ensuite, il y a le Din. Din, et là, c'est très dur. Et là, vient après Yom Kippour, c'est Rachamim. Viachov à la chambre de Rachameu. C'est juste dit à Akadosh Baruch Hu, je sais que tu connais mes défauts, et je sais que je suis pas méritant, mais quand même, Virachameu, aie pitié de moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici, Veyashav al Hashem virachameu. Il va retourner vers Akadosh Baruch Hu, et Dieu, virachameu, on parle toujours à la troisième personne, il l'aura en miséricorde, d'accord? Explique la Gemara Zaken, quand on dit il, de qui on parle? Je dis que je vais retourner vers la personne va retourner vers Akadosh Baruch Hu, et il l'aura en miséricorde. Je sais pas si ça se dit en français, avoir en miséricorde. Virachameu. Bon. Qui c'est qui aura en miséricorde? C'est pas moi. C'est Dieu qui aura la miséricorde. Parce que Dieu, quand j'étais en train de faire d'Averot, Dieu, il descendait avec moi. Et quand je vais faire Teshuva, c'est pas que moi qui va bénéficier, c'est Dieu qui va bénéficier de ça. Parce que comme on a dit, Melech Asor Bareatim. Quand je fais une Avera, Dieu est emprisonné avec moi. Imo Anochi Betsara. Dieu est emprisonné avec moi. C'est très grave ce qu'on est en train de dire.
Donc quoi, Dieu a pitié sur lui-même?
Non. Veyashov El Hashem, lorsque je vais retourner vers Akadosh Baruch Hu, virachameu, ce ne sera pas un rachamim seulement envers moi, ce sera un rachamim hu, envers Akadosh Baruch Hu. C'est un remède, hein, bien sûr, c'est pas le pshat. Hein.
Qui est Merachem? Dieu est Merachem?
C'est moi, je retourne vers Akadosh Baruch Hu, et là, à ce moment-là, donc Dieu est Merachem, mais en étant Merachem, il est Merachem sur lui-même en vérité. Donc il récupère. On a des doubles jeux ici. Hein.
Je sais pas, c'est un cadeau pour faire Dieu.
Ah, j'ai pas dit ça.
Mais là-bas, il y a des gens qui disent que je sais pas, c'est un cadeau pour faire Dieu. C'est des choix.
Quelque part, c'est ce que tu dis.
Un peu, ouais. Ah, non, j'ai pas dit ça, non. Là, parce que là, le maire, c'est
comment... Non, mais en gros,
ouais.
L'hôpital.
Oui. Je
comprends bien.
Venez, hein,
l'hôpital. Ah, non,
C'est un peu égoïste de parler comme ça. Le gars, il casse toute l'année, après, il dit...
Non, mais ça veut dire que, malgré tout, ça se voit, mais il y a aussi une part de
qui fait ses choux, au final, c'est
peut-être... Au final, ouais, moi je parle de la finalité. Ici, il parle de la finalité. C'est comme le fils qui fait une bêtise, soit il fait la honte à son père, après il va demander pardon, il dit voilà, je l'ai fait pour toi. Hein.
Le père est content, c'est ça.
Ouais, mais bon, le fils, il est effronté comme il faut.
Non, mais il faut aussi croire qu'il peut être sincère. Ça peut donner satisfaction au père de voir son
fils traduit. Oui, ça donne satisfaction. La finalité, c'est sûr, ça, comme il a dit.
Donc par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, la miséricorde, c'est l'homme qui a la miséricorde sur Dieu. Par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, il a dit le méorer, ça marche là-bas.
Oui.
Jusqu'à ce qu'il voit. Il se rend compte qu'en fait, finalement, quand tu fais des avérotes, il tire sur Dieu et tu fais descendre Dieu. Donc, finalement, en gros, il a pitié de Dieu. Et donc, Virachameu, c'est plutôt.
Oui, Le Rachameu s'explique comme ça. Il dit Veyashav El Hashem, il va retourner vers Hashem, Virachameu, et il aura Rachamim de Hashem. C'est ça. D'accord. Mais on parle bien sûr de la finalité. C'est pas que je suis en train de faire un cadeau à Dieu en faisant de Tshuva, il ne faut pas non plus exagérer. Alors, qu'est-ce que dire-t-il, comme c'est écrit?
Donc on lui demande d'avoir pitié de Dieu.
Voilà. Même si moi je m'en fiche de moi, et pitié de Tanéchama, et pitié de Dieu. C'est ça? Là, on parle de ceux qui n'arrivent pas à avoir à Avaveira.
Et ça, c'est plus facile que aimer ou craindre?
Oui, c'est plus facile, ça. Alors, pitié de Dieu. Moi, je sais même quand on parle à la synagogue, quand on parle aux gens.
Avoir pitié de Dieu, ça m'a l'air d'être...
Quand on parle aux gens, quand je dis à la synagogue, des fois ça m'arrive de parler à des gens qui sont très très loin de Torah et Mitzvot. Quand on leur dit, quand on leur parle des concepts de Ahava Veira, c'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu, il faut craindre Dieu, ça n'accroche pas en général. Ça n'accroche pas. Mais par contre, le concept d'expliquer qu'ils ont une Neshama, et que leur Neshama est en train de souffrir, ça parle à la troisième personne, ça marche beaucoup plus facilement. Bien sûr qu'après, il faut continuer. Après, il faut Torah et Mitzvot, comme vous l'expliquez après. Après, il faut... Rachamim, ça ne suffit pas. Mais on voit que c'est un sentiment qui vient beaucoup plus facilement. Le sentiment de pitié, c'est un sentiment qui vient beaucoup plus facilement. Alors, que dire-t-il, comme c'est écrit? Non, donc j'ai sauté. Ve'alze ne'emar ve'yashav el Hashem virachameu, le'orer rachamim rabim Hashem Hashem, ashochen itanu, kedirtiv ashochen itam betortum otam. Comme le verset dans Vaïkra, il dit que ashochen itam betortum otam, Akadosh Baruch Hu, il réside avec nous dans notre impureté. C'est-à-dire que pas quelqu'un qui dit, bon, maintenant je suis impur, je me sépare de Dieu et après je reviendrai. Non. Quand on fait une avéra, on tire à Kadosh Baruch Hu avec nous. C'est-à-dire, on est en train de tirer. Imaginez-vous la honte que ça fait à Kadosh Baruch Hu. Il avait donné dans le Perek Zayin, dans le 7e chapitre, il avait donné l'exemple, il a dit que quand on fait une avéra, c'est comme si il avait dit que Tomen, Roche Ameler, va être acquitté. C'est comme si on prend la tête du roi, on la met dans les toilettes. C'est l'exemple, c'est pareil, c'est encore un exemple du Zohar. C'est des images tout ça, mais c'est vrai. Quand on fait une avéra, Ashurchen est un metar tout matin. On fait descendre Akadosh Baruch Hu très bas. Donc il faut avoir pitié d'Akadosh Baruch Hu. C'est nouveau ça. Zehu Shamar Akatou. Vaishak Yaakov le Rachel. Vaisa et Kolo Vayevk. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Vaishak Yaakov le Rachel, Yaakov a embrassé Rachel. Vaisa et Kolo Vayevk. Et donc quand il a retrouvé Rachel, il s'est mis à pleurer. Alors il faut savoir que Yaakov et Rachel, surtout dans le Zohar, Yaakov et Rachel, on parle pas de deux personnes seulement qui ont vécu, il y a 4000 ans, d'accord? Quand on parle de Yaakov et Rachel, c'est pas seulement deux personnes, mais c'est aussi, ça va correspondre à des entités qui existent encore aujourd'hui.
Symbolique.
À quoi ça correspond? Qui Rachel ou Knesset Israël? Vous savez, c'est pour ceux qui font Tikkun Ratzot, je sais pas s'il y en a qui font Tikkun Ratzot.
Tikkun Rachel.
Voilà, dans Tikkun Ratzot, on a Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Tikkun Rachel, Tikkun Léa. C'est quoi le Tikkun? Le premier Tikkun, c'est le Tikkun Rachel. Tikkun Rachel, c'est là qu'on dit que c'est quoi Rachel, comme il dit ici, ou Knesset Israël, mais quoi qu'on est chamot. Rachel, ça correspond à l'assemblée d'Israël. Et dans le Tikkun Rachel, enfin, ceux qui le lisent, en tout cas, ils pleurent, et ils disent comment la Shrina est en exil, et qu'on est en exil, et que c'est très grave, et qu'il faut faire Teshuva, et qu'on est très très loin. Ça, c'est Tikkun Rachel. Ensuite vient après Tikkun Léa. C'est quoi Tikkun Léa? Tikkun Léa, ça parle que de Mashiach. On dit que Mashiach va venir et la lumière elle va venir. Ça veut dire que celui qui voit le début Tikkun Ratzot, la fin Tikkun Ratzot, il se dit c'est pas possible que la même personne a dit les deux choses. Le début Tikkun Ratzot, Tikkun Rachel, c'est la grande Rafra. Et la fin Tikkun Ratzot, Tikkun Léa, c'est une grande Simra, comme si Mashiach il arrive à la seconde qui est tout de suite, hein, il arrive tout de suite.
C'est pour que la bonnesse, pour prier.
Il dort pas, non, il dort pas.
Il dort pas.
Alors, on dort à 2 heures peut-être.
D'accord, dit la mettre au Tikkun Ratzot. Après, il n'y a pas de temps.
Il dort jamais.
Qui Rachel, Iknesset Israël, Mekor Kolaneshamot. Quand on dit que Yaakov a embrassé Rachel, ça veut dire quoi? C'est qui Rachel? Rachel, ça correspond à l'assemblée d'Israël. C'est quoi l'assemblée d'Israël? L'assemblée d'Israël, ça veut dire Mekor Kol HaNeshamot, la racine de toutes les Neshamot. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 40 sur le Leshem Yichud? On avait dit Leshem Yichud Kodesh Baruch Hu, on dit Beshem Kol Israël. On avait posé la question, on avait dit mais qui te permet quand tu fais une mitzvah de dire que tu l'as fait au nom de tout le peuple juif? On avait dit parce qu'en vérité, quand on fait une mitzvah, le mérite de notre mitzvah, il monte jusqu'à la racine des Neshamot. Et il y a une racine des Neshamot pour tout le monde. Donc, Beshem Kol Israël. Donc, Rachel, ça correspond à quoi? À cette source des Neshamot. Mekor Kol HaNeshamot. Mais Yaakov, c'est pour ça qu'en général, toujours quand on parle de l'exil, Rachel, ça a toujours eu un rapport avec l'exil, avec l'assemblée d'Israël, avec l'exil. C'est pour ça que même le Kever Rachel, il a été dans le chemin de... C'est écrit qu'il va être dans le chemin de retour du peuple juif vers la terre d'Israël. Et quand ils vont pleurer, le peuple juif va pleurer, ils vont dire on n'en peut plus. D'accord? Là, à ce moment-là, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il aura rachamim sur nous. Et là, Baruch Hashem, aujourd'hui, ils ont mis la muraille, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, le rempart de sécurité en Israël. On peut aller tranquillement au Kever Rachel. Et quand on va au Kever Rachel, on sent un sentiment de rachamim très fort. On sent plus que dans les autres dvarim. Je peux vous dire, cette année, par exemple, j'ai fait beaucoup de dvarim. Le Kever Rachel, on sent quelque chose de spécial. C'est quelque chose de très spécial dans le Kedar Rachel. Bon, au Rachel, aujourd'hui, on peut y aller tranquillement. Donc ça, c'est Rachel. Ve'yakov, ve'midato el-yona she'imidat ha'achamim she'ba'atzilut, ou ame'orez rachamim rabim alea. Yaakov, ça correspond à quoi? Yaakov, ça correspond au niveau de rachamim, de la miséricorde qui est dans le niveau de Atzilut. Rappelez-vous les 4 mondes. Atzilut, Ra, Yitzira, Asiya. Atzilut, c'est le monde le plus haut. Rappelez Yaakov. Vaïssa et Kolo, le Mala, l'Imkor, Arachamim, Aelionim, Anikra, Av, Arachamim ou Mekoram. Yaakov, Bemidato, Aliona, je vais finir avec ça. Sheimidata, Arachamim, Shebaatzilut, ou Ameore, Arachamim, Rabbi Malea. Yaakov correspond à quoi? Yaakov correspond à la Mida de la miséricorde. La Mida de la miséricorde qui est dans Atzilut, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand on nous dit que Yaakov Vaïssa et Kolo? Vaïssa et Kolo, ça veut dire que Yaakov, il va avoir pitié, il va éveiller la pitié, la miséricorde pour Rachel. Rachel, ça correspond à l'Assemblée d'Israël. Et Yaakov, il va éveiller la miséricorde pour l'Assemblée d'Israël. Vaïssa et Kolo, les mâles, les mkor, arachamim, alionim, anikra, avarachamim. Dans plusieurs endroits dans la tefila de Yom Kippour, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner de la miséricorde, de mekor arachamim. Il dit quelque chose, Mekor HaRachamim. Mekor HaRachamim. C'est quoi ce Mekor HaRachamim? Mekor HaRachamim, c'est-à-dire la source de la miséricorde. Et Vaïssa et Kolo. Vaïssa, ça veut dire que Yaakov, il va élever sa voix, hein. Il va monter pour aller chercher la bracha. Où il va aller chercher la bracha? À la source, c'est où la source? C'est Mekor HaRachamim. Chez Akadosh Baruch Hu. Vaïevk. Le horaire ou le hamshich misham, rachamim rabim al kol aneshamot, ve'al mekor kneset Israël, la alotan megalotan ve'yachadan v'ichu l'an yamarsa v'orchu. Je m'arrête ici parce qu'après ça c'est un autre sujet qu'on devra expliquer la semaine prochaine. Enfin pas la semaine prochaine, ça sera après les chagim de Rosh Hashem. Mais en tout cas ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on a expliqué deux concepts. On a parlé du concept de rachamim, de la miséricorde. Enfin, pitié et miséricorde, c'est les deux. On a dit qu'en vérité il faut un peu externaliser notre neshama. Pas à penser à moi, parce que quand on est égoïste, d'accord, je me dis je fais une avéra, je m'en fiche, d'accord, laisse-moi tranquille, je fais une avéra, je fais ce que je veux, qu'est-ce que tu me prends la tête? On te dit non, toi tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais sache que, réfléchis à ta neshama, qu'est-ce que c'est pas ça ta neshama? Notre neshama, c'est une neshama qui est descendue d'un monde très très haut, elle est descendue, d'ailleurs le fait même qu'elle est dans le monde, dans un corps, qui peut être plus tordu qu'un animal, c'est une souffrance énorme, même si c'est un sadique, parce que le fait même que le corps peut être tordu, c'est une souffrance. Qu'est-ce que je fais moi avec cette neshama? Non, je la laisse pas comme ça, mais je fais des averot. Je fais des averot, je l'embête, je la fais descendre. C'est une souffrance énorme pour la neshama. Il faut avoir un chamim sur la neshama. Il faut avoir un chamim en quelque sorte sur un kadosh baruch hu. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Veyashov el Hashem virachameu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand nous on a rachamim sur un kadosh baruch hu, quand nous on a rachamim sur notre neshama, à ce moment-là, kadosh baruch hu, lui aussi de son côté, Vaishak Yaakov le Rachel, à kadosh baruch hu, lui aussi de son côté, va nous trouver un niveau qui est plus fort que Chesed. C'est-à-dire quoi plus fort que Chesed? Parce qu'on explique comme ça, dans la même lancée que ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence entre Chesed et Rachamim. Le problème qu'on a avec Chesed, c'est quoi? C'est que Chesed, c'est je dis, je ne vois pas les défauts que la personne a. Donc je lui donne, bonté, je lui donne. Mais des fois, les défauts, ils sont tellement apparents que tu ne peux pas ne pas les voir. Que même Avraham Avinu, il dit, écoute, on ne peut pas. Donc ça bloque. Après, tu as Din. Bon, Din, ça c'est le Din, ça on le connaît. C'est quoi Rachamim? Rachamim, tu te dis, je sais que tu as des défauts et je sais que sont très grands tes défauts. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je donne quand même. Ça, c'est le niveau de Rachamim. Quand nous, on a Rachamim sur un Kadosh Baruch Hu, je dis, écoute Dieu, j'essaie de faire ce que je peux, j'ai pitié sur mon Neshama. Bon, mon corps, j'en ai pas tellement à faire. Gainom, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Gan Eden non plus. Mais bon, j'ai pitié, on m'a dit que j'ai une Neshama et qu'elle est descendue. J'ai pitié, je vais essayer de bien me comporter. A Kadosh Baruch Hu de son côté, lui aussi, il aura Rachamim sur nous. Pesra Tachama Yom Kippour. Même, espérons même avant Yom Kippour. Et à Kadosh Baruch Hu, il aura Rachamim. Mais mes corps à Rachamim. Mes corps à Rachamim, ça veut dire que même si on n'est pas méritant, à Kadosh Baruch Hu dit, je sais que vous n'êtes pas méritant, mais c'est pas grave, Chesed Din Rachamim. Toujours après le Din viendra le Rachamim. Donc maintenant qu'on est passé par Rosh Hashanah, place à Yom Kippour, on a Rachamim. En tout cas, Chazak Kouvaro est venu.
Chazak.
J'ai beaucoup hésité aujourd'hui, est-ce qu'on fait le cours ou pas? Ok, j'ai dit bon,
Salut aussi, Pierrot.